baisse le volume. De 1. Ah, là c'est mieux. Alors je suis très heureux aujourd'hui de me tenir devant vous et surtout vous partager. C'est un peu fort. C'est bon? Vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et j'espère que vous serez venus aussi comme moi. Avant tout, je m'enseigne moi-même parce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par je et puis avant d'aller chez les autres. Je suis un peu surpris ce matin de savoir comment la connexion elle est assez forte. J'allais dire, on n'est plus au Wi-Fi, mais on est au Hi-Fi. Parce que depuis qu'on a commencé les cultes, si vous vous souvenez bien, le premier chant c'était Tu es ma force. Après la force, on est passé à la foi. Et finalement, moi aussi, je vais vous parler de la foi avec le témoignage de Sharon qui parle de la foi. Donc, on s'encourage encore ce matin. Et surtout, continuons à s'encourager mutuellement, que ce soit dans des prières, que ce soit dans les actes, que ce soit d'une manière ou d'une autre. En tout cas, n'hésitons pas de nous soutenir et Dieu aime toujours l'unité. Alors, ce matin, je vais vous partager un thème que j'ai intitulé Vers la pratique de la foi chrétienne. J'espère que vous saurez faire le lien entre le thème et le contenu de ce thème parce que moi-même je me disais, bah, Seigneur, je ne sais pas, c'est ma première fois. Je vais enseigner, mais je me laisse vraiment guider par ton esprit et surtout prépare nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous apprendre. Alors, depuis que Bernard m'a proposé de partager un enseignement avec notre assemblée du Colombier, je me demandais toujours comment j'allais procéder parce que j'avais pas mal de sujets à vous partager, de par la richesse du contenu de la Bible. Mais après une période de prière, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de vous partager une de mes interrogations à propos de la foi chrétienne. Et cette interrogation est la suivante. Sommes-nous chrétiens par peur de nous retrouver dans les camps de l'ennemi, ou sommes-nous disciples du Christ en reconnaissance de l'œuvre salvatrice de Golgotha? Je reprends. Sommes-nous chrétiens par peur de nous retrouver dans les camps de l'ennemi, ou sommes-nous disciples du Christ en reconnaissance de l'œuvre de Golgotha? Dans mon interrogation, il y a. Je dirais que c'est la même direction, mais si vous avez compris la question, il y a chrétien, il y a disciple du Christ. Et donc ce matin, on essaiera de voir qui est chrétien, qui est disciple du Christ, et puis on essaiera de déterminer, entre guillemets, la définition de ces deux personnes, et en même temps différencier qui est qui par rapport à qui. Alors, sans plus tarder, le terme, comme je disais, le thème, il paraît, disons, la question, elle paraît un peu banale dans sa lecture, mais il me semble qu'elle est tout ce sens dans la foi, car de nos jours, il est de plus en plus difficile de distinguer qui est disciple et qui est chrétien. Alors, j'ai essayé de me poser un peu des questions pour savoir pourquoi ce choix parmi tant d'autres choix que j'avais à vous partager. Puis, je me suis rendu compte que, voilà, ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit a voulu que je vous partage ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il disait que, voilà, ce thème sera, bon, se fixera pour objectif principal d'essayer de nous faire prendre conscience de notre engagement personnel. Pas communautaire, mais engagement personnel, de suivre Jésus-Christ et accomplir la mission qu'il nous a confiée en Matthieu 28, 19, 20. Donc, premièrement, il y a la prise de conscience de notre engagement personnel et puis l'accomplissement de la mission qu'il nous a confiée. Donc, ça fait un peu pas mal de sous-thèmes, pour ne pas dire de petites questions à se reposer. Ensuite, le Saint-Esprit m'a, j'allais dire, m'a révélé à ce que je fasse une certaine mise en garde particulière pour tout disciple du Christ qui confronterait le but de l'évangile et le rôle des prédicateurs de l'évangile. Parce que ça fait deux domaines différents. On va essayer de voir, j'espère que ce ne sera pas entremêlé. Après, nous devons comprendre également que nous sommes disciples du Christ, non pas parce que nous avons peur de nous retrouver dans le camp de l'ennemi, mais être disciple du Christ, c'est un engagement personnel qui se manifeste par croire et reconnaître l'œuvre de la croix. Croire et reconnaître l'œuvre de la croix. De ce fait, nous témoignons de notre amour envers celui qui a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Vous le croyez? Ou vous êtes d'accord? Je l'espère. Alors que l'Esprit Saint nous révèle, la meilleure interprétation possible de la volonté de Dieu, afin que nous puissions comprendre la finalité de sa parole. Il y a comprendre la parole et comprendre la finalité de la parole, raison pour laquelle je disais précédemment faire la différence entre les évangiles et les prédicateurs des évangiles. Ça fait deux choses vraiment différentes. Alors, au courant de ce moment, nous allons évoluer sous trois volets. Notamment, on va essayer de contextualiser le sujet. On va essayer d'identifier qui est disciple du Christ. Et à la fin, nous allons voir les conséquences de la confusion entre chrétiens et disciples du Christ. Sans plus tarder, je veux vous poser juste une question. Selon vous, pourquoi le thème s'intitule Vers la pratique de la foi chrétienne? Si vous m'avez suivi précédemment. N'hésitez pas à interagir. Pour ceux qui connaissent ce petit moment que je partage avec les autres, je suis quelqu'un qui aime bien discuter avec les autres. J'aime pas qu'on m'écoute juste comme ça. J'ai plus l'impression comme si je parle à moi-même, alors que le but, c'est de transmettre, interagir tous ensemble, parce que, ouais, je suis devant pour vous apporter quelque chose, mais vous aussi, vous avez des choses à m'apporter, et du coup, il faut qu'on interagisse, et puis, n'aie pas hésité à se partager des idées, entre guillemets, des opinions et bibliques, bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a une différence entre disciples du Christ et chrétiens. Et je vais essayer de définir d'abord ces deux notions, puis déterminer la différence entre les deux. Certes, je ne serai pas exhaustif dans mes explications, mais j'essaierai de vraiment de répondre au mieux à cette interrogation qui me semble vraiment pertinente. Et je vais commencer par le chrétien. Le chrétien, c'est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus-Christ. Ça, c'est le dictionnaire qui nous le dit. Et suit son enseignement rapporté par les évangiles. Il peut se former auprès d'une autorité religieuse ou une église, soit en étudiant l'évangile seul ou avec les autres. Dans cette définition, le verbe qui m'a plus intéressé, c'est le verbe adhérer, parce que ils disent que le chrétien, c'est quelqu'un qui adhère. Et dans toutes les définitions que j'ai pu lire par rapport à ce verbe d'adhérer, celle qui m'a paru plus opportune par rapport à mon thème, c'est adhérer veut dire se ranger dans un parti. Alors, si on se range dans un parti, la question que je me suis posée est, est-ce que cette définition traduit-elle vraiment la volonté de l'engagement du chrétien dans son choix de vouloir appartenir, de vouloir se ranger vers telle ou telle autre partie. Je vous laisse la question, on va y revenir peut-être plus tard. Ensuite, pour le disciple, c'est une personne qui suit la doctrine de maître et s'attache à ses principes, à ses sentiments. Là aussi, il y a un autre verbe qui m'a beaucoup, disons, qui a attiré mon attention, c'est le verbe s'attacher. Et j'ai choisi pour définition faire dépendre de. Mais si vous suivez bien les deux définitions, on se retrouve avec le verbe suivre chez les chrétiens et suivre chez les disciples. Alors, qui est qui par rapport à quoi et qui fait quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser et essayer de dénouer. Alors, comme je disais précédemment, le chrétien, c'est quelqu'un qui adhère. Généralement, la notion d'adhésion ne traduit pas forcément la volonté de vouloir appartenir au groupe ou à la partie ou donc, ouais, à la partie ou aux parties que tu dans lesquelles tu t'adhères. Et donc, le chrétien par rapport aux disciples du Christ, bien sûr, est remis en question par cette notion de volonté de vouloir, ça, disons, de vouloir appartenir à son parti d'adhésion. Alors que pour le disciple, lui, il traduit vraiment l'idée de faire partie de quelque chose. Autrement dit, il veut vraiment appartenir à son choix qu'il veut et soutenir cette, entre guillemets, l'opinion le parti qu'il choisit. Alors c'est pourquoi on va lire Hébreux au chapitre 12, le verset 1 à 2. Moi j'ai la version Semer, vous avez je crois lu second, du coup ne soyez pas surpris s'il n'y a pas vraiment les mêmes phrases. Hébreux chapitre 12, le verset 1er à 2. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée des témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance. Dans la version second, je pense, c'est patience ou persévérance. Ouais, c'est persévérance. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui a été réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite des dieux. Ce verset nous introduit à notre deuxième, j'allais dire deuxième sous-bloc de la distinction, ouais, j'allais dire la distinction pour différencier le chrétien du disciple, qui est l'identification d'un disciple du Christ. Donc là, on sait que le chrétien, lui, il est chrétien, mais il n'est pas forcément disciple, alors qu'un disciple, on comprend qu'il peut être chrétien, mais plus que chrétien. Parce que lui, il a cette notion ou cette volonté de s'adhérer, et puis la volonté aussi de vouloir appartenir à quelque chose. Alors, il y a plusieurs moyens qui permettent d'identifier le disciple du Christ, et parmi ces moyens, on va citer quelques-uns, notamment au premier point, la méditation de la parole. Ça, c'est un des caractères principaux vraiment d'un disciple du Christ. Et considéré comme le caractère principal de sa foi, la méditation en elle-même ne suffirait pas, car comme dans un véhicule, le carburant ne peut suffire à lui-même pour faire fonctionner le véhicule. Vous êtes d'accord? Alors, on va continuer si vous êtes d'accord. Cependant, la méditation s'est traduite par la lecture biblique, la prière et la mise en pratique des instructions du grand maître. Selon vous, pourquoi la lecture biblique et non la lecture de la Bible? Question ouverte. J'attends votre réponse. Si la méditation, je reprends, si la méditation s'est traduite par la lecture biblique, la prière et la mise en pratique des instructions du grand maître, pourquoi elle ne se traduit pas par la lecture de la Bible? Une question, une réponse, pardon. Non. Sharon, tu peux répondre, s'il te plaît, parce que ton témoignage correspond un peu plus avec la réponse que à cette question. Exactement, c'est ça. Et donc voilà. Alors, oui. Alors, elle disait que la lecture de la Bible, c'est une habitude qu'on prend parce qu'on doit lire la Bible. alors que la lecture biblique, c'est quelque chose qui est gravé dans notre cœur. Et donc, je reprends vraiment, c'est ça la réponse. Pourquoi la lecture biblique et non la lecture de la Bible? Eh bien, parce que il nous arrive des fois de ne pas avoir, de ne pas lire la Bible et nous nous culpabilisons généralement. Pourquoi on se culpabilise? Parce qu'on a pris l'habitude de lire la Bible, parce que c'est, entre guillemets, c'est à l'église qu'on demande de lire la Bible. Et des fois, on la lit parce que, voilà, Seigneur, je dois finir ma corvée d'aujourd'hui, je dois lire au moins un chapitre. En quelque sorte, c'est ça. Pourtant, en tant que chrétien, pour ne pas dire disciple du Christ, on doit essayer d'aller plus loin que la lecture quotidienne de la Bible. Raison pour laquelle, afin d'éviter cette culpabilité qui nous ronge et éviter de tomber dans la routine habituelle, je mets un point vraiment sur routine habituelle parce que c'est devenu quelque chose de tout le temps, de la lecture de la Bible donc. Il existe d'autres moyens pour pallier la situation, notamment la lecture des livres faisant mention des versets bibliques ou écouter de la musique de méditation. Autrement dit, vous pouvez ou ne pas avoir la volonté ou le courage de lire la Bible, mais cela ne vous empêche pas de lire un autre livre qui fait référence à la Bible, notamment de bouquins comme des méditations quotidiennes. Il y a pas mal de revues chrétiennes aussi qui parlent de versets et qui essaient de faire de brefs commentaires, qui fait ci, ça. Et en tout cas, n'hésitez pas, ça arrive. On n'est pas 100% connecté, sinon la prière n'existerait plus. On serait que collé sur la Bible ou, je sais pas, ne plus faire tout ce qui est demandé par la Bible. Et donc, en dehors de livres ou de bouquets qui font référence à la Bible, il y a aussi l'écoute des musiques de méditation. Des fois aussi, on est là, on s'est dit, bah, j'avoue que j'ai passé toute ma journée, soit à l'école devant les écrans, soit à l'école devant les papiers et les stylos. Tu n'as que les écritures, les écrits, le bleu, au travail, je ne sais pas quoi. Et puis, tu te dis, bah, Seigneur, je sais que, voilà, sous peine de me culpabiliser, je sais que je resterai attaché à toi au travers de cette musique de méditation. Et s'il y a vraiment un message que tu veux me révéler au travers de la musique, vraiment, je disponibilise mon cœur pour que tu m'enseignes encore au travers de la musique. Donc, évitons de continuer à nous culpabiliser parce qu'on n'a pas fait notre routine quotidienne, la lecture de la Bible. Et c'est là nous le trouvons un peu plus dans le psaume au premier chapitre, les deux premiers versets qui nous disent: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Rien qu'en interprétant le deuxième verset, de mettre sa joie dans la loi de l'Éternel qui la médite jour et nuit. C'est pas possible qu'on reste 24 heures devant la Bible comme ça sans rien faire. Raison pour laquelle il faut essayer de voir comment combler cet apprentissage biblique au travers de, comme je disais, des autres bouquins qui font référence au verset de la Bible et des commentaires peut-être qui t'aideront à comprendre encore mieux le verset qui est commenté ce jour. Pour le deuxième caractère, disons la deuxième identification d'un disciple du Christ, c'est sa flexibilité à la soumission à la parole de Dieu. Un bon disciple, c'est celui qui se soumet, pardon, à la parole de son maître, quel que soit le moment dans lequel le maître lui impose de se soumettre. Est-ce que nous sommes de disciples soumis ou nous sommes des disciples du genre Seigneur, j'avais prévu de me réveiller à 5 heures, mais malheureusement, il est 5h30. Donc les 30 minutes là, je vais essayer de me rattraper, passer à la douche et puis faire mon petit déjeuner, le reste environ au courant de la journée. Ou sommes-nous les genres de chrétiens qui se disent, bah, même si je suis en retard, je prends une, 2 minutes pour dire Seigneur, merci. Rien que merci. Mais poser sans avoir l'idée de vouloir courir derrière nos occupations quotidiennes. Là, c'est une question que je vous laisse. Vous n'allez pas répondre, mais ce sera vraiment une méditation. La soumission à la parole de l'Éternel, c'est quelque chose qui est difficile à appliquer dans la vie quotidienne, pour être tout à fait honnête, parce que nous vivons actuellement dans un monde qui nous oblige de courir vraiment derrière ce monde, sinon on risquera de perdre et Dieu et le monde. Donc on se soumet entre guillemets au monde, que voilà, essayer de privilégier le Seigneur. Mais cela n'est pas bien. Ce n'est pas pour condamner ceux qui sont comme moi ou pas. Et on va lire ensemble Marc chapitre 10, le verset 21. Si vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît. C'est un exemple parmi tant d'autres dans la Bible qui parle de la difficulté à la soumission de nous les chrétiens, de nous qui disons être chrétiens, pour ne pas dire disciples du Christ. Marc 10, 21. Jésus posa un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus nous montre à quel point se soumettre à sa parole vaut tout l'or du monde, car les trésors terrestres ne vont que vanité, mais le disciple du Christ devrait viser le trésor du ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah si oui, mais est-ce que vous serez prêt à vendre tout ce que vous avez pour suivre Christ? Je l'espère. Je l'espère en tout cas, mais ouais, c'est pas facile, je suis d'accord avec vous. Et David approfondit encore cette question sur la soumission dans ses psaumes. Et je vous ai choisi le psaume 25. Je vais lire encore une fois. De David, vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte. Mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je m'attends en toi à longueur de journée. Dans ce passage, il y a quelques passages aussi, disons, dans ce verset, il y a quelques passages qui doivent beaucoup nous attirer à propos de la flexibilité à la soumission. C'est le verset 4, j'espère que. Ouais, c'est celui-là. David, il reconnaissait que voilà, il est humain, il ne peut pas s'égaler à Dieu. Et du coup, il comprenait que voilà, il faut juste que je me remette à ma place et demander à ce que il me rende flexible à sa parole. C'est pourquoi il disait Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Il était chef de l'armée, il était, avant de devenir roi, il était quelqu'un qui avait vraiment de l'importance dans la nation d'Israël. Donc il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais il se rendait compte que malgré mon autorité, malgré tout le pouvoir que j'ai, ça ne suffit pas parce que je dois suivre la voie de l'Éternel et le chemin qu'il doit vraiment m'indiquer. Ensuite, il continue à disant, dirige-moi selon ta vérité, et non selon ta parole, mais selon ta vérité. Puis instruis-moi. Je ne sais pas si vous faites le lien avec le premier moyen d'identification. La Bible, ouais, c'est sa parole, mais sa vérité, c'est plus la pratique de la parole. Merci. Voilà, on va passer au troisième moyen d'identification, qui est la ferme conviction de la perfection de la loi de l'Éternel. Ça semble un peu trop long, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est long. je vous redis, la ferme conviction de la perfection de la loi de l'Éternel. S'engager à suivre Christ, c'est croire en sa parole et demeurer dépendant de la loi ou de sa loi. Je reprends. S'engager à suivre Christ, c'est croire en sa parole et demeurer dépendant de sa loi. Là, on trouve la notion de la croyance et la notion du demeure. On va essayer de développer ces deux verbes et comprendre pourquoi ces deux verbes sont complémentaires. On va commencer par la foi, avec entre guillemets le fameux verset qui nous décrit très 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 bien la foi. Dans Hébreux 11, au premier verset. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Vous êtes d'accord? La loi de l'Éternel ne peut être parfaite si on n'y croit pas. Vous pouvez lire autant de fois la Bible, entre guillemets, vous l'analysez scientifiquement pour ne pas dire humainement, mais si vous n'y croyez pas, ça restera un livre d'histoire qui est passé avec le peuple d'Israël, avec tout ce qu'il y a. Mais pour vivre vraiment le contenu de la Bible, il faut y croire. Raison pour laquelle, lorsqu'on s'engage à suivre Christ, l'élément déclencheur est de croire en sa parole pour mieux vivre ses merveilles. Aujourd'hui, si vous prétendez suivre Christ, vous reconnaissez que quelque part, vous avez cru en sa parole, raison pour laquelle vous vous êtes engagé à le suivre. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Toutefois, croire à lui seul ne suffit pas non plus. Mais demeurer dans la croyance de la parole divine reste la clé de la contemplation, de la magnificence, de la gloire de Dieu. Donc vous pouvez croire, comme je disais, mais si vraiment vous ne demeurez pas dans cette croyance, pour ne pas dire dans la pratique aussi, j'ai envie de dire c'est néant. Alors on va passer au deuxième verbe que je disais, celui de demeurer. Hébreux 10, 36, si vous pouvez l'afficher s'il vous plaît. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Je reprends. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Rien qu'en lisant ce verset, on comprend que ce n'est pas parce que j'écris en sa parole que je vais obtenir ce qu'il m'a promis. Non, je dois persévérer. D'où la notion de la persévérance et le demeure. Donc vous pouvez croire à la parole, mais que ce ne soit pas quelque chose. Je donne un exemple plus concret pour que vous compreniez ce que je vais dire. Aujourd'hui, il est triste de remarquer qu'on a certains chrétiens qui te disent à la famille, au travail, au boulot, avec les amis, avec toute la compagnie avec laquelle je travaille, où je passe ma semaine, c'est la galère. Donc je vais à l'église pour me détendre, notamment avec de la bonne musique, avec un enseignement qui sera tout le temps. Jésus a dit, Dieu a dit, il faut aimer les uns les autres, machin, tout ça. Ok, bon, c'est bien bon, oui, tu peux venir. À la fin du culte, traverser la porte, au revoir le plaisir de l'église, bienvenue les emmerdes de la maison. Désolé pour les termes. Ça, c'est pas être chrétien. Donc, vous devez persévérer. Alors, persévérer dans sa parole, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Entre guillemets, la température doit rester la même. Le deuxième verset à afficher pour approfondir la notion de la persévérance, c'est Jacques au chapitre 1er, le verset 2 à 4. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Personnellement, rien qu'en lisant ce verset, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce que j'interpréterai à la première, à la première épreuve, en fait, pour ne pas dire à la première compréhension. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, considérez-vous heureux. On est humain, on doit reconnaître qu'il y a des épreuves qui nous coupent le souffle. De fond, on s'est dit, pourquoi moi ? qu'est-ce que je fais pour mériter ceci ou cela. Mais on continue. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Dans votre traduction, ils disent produisent la foi, voilà. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire. Pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, comme des hommes auxquels il ne manque rien. J'espère que vous comprenez le lien. Donc, on croit, ça ne suffit pas, il faut persévérer. Dans la persévérance, il y a des épreuves qui, des fois, peuvent nous décourager. Et Sharon a dit, bah oui, ça arrive des fois dans la vie où on ne veut pas, on n'a pas la motivation, on n'a pas le courage. Bon, oui, mais est-ce qu'on doit baisser les bras? Non. Selon Jacques, il dit, vous devez continuer jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Comme des hommes auxquels il ne manque rien. Généralement, lorsqu'on est à l'épreuve, c'est pas facile de vivre cette épreuve. Mais après, si on prend un peu de recul pour comprendre j'allais dire le but de l'épreuve, on comprend qu'il y a toujours une leçon à retenir, d'une manière ou d'une autre. Sauf si tu es vraiment quelqu'un qui te dit, bon, j'accepte que voilà, le monde s'écroule sur moi, mais il y a toujours une leçon à retenir. Et pour preuve, la prochaine fois, on essaie de faire mieux pour ne pas revivre l'épreuve. Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à cela. Et donc, combien il est difficile de passer haut les mains, pardon, ces tests divins dans la vie du discipulat, la patience et la persévérance. C'est pas facile, on est humain. On a toujours tendance à réfléchir en mode bâton magique, pour ne pas dire un claquement des doigts. Attends, le nom de la série, c'est Joséphine Ange Gardien, je crois. C'est ça. Ouais, j'aime pas, désolé, mais j'aime pas la série parce que je trouve que c'est pour, entre guillemets, se détendre en fait. Je vois pas particulièrement le fait de vouloir se laisser convaincre que faire ça peut faire changer des choses en fait. C'est pas ça. Il faut vous confronter à la réalité, essayer vraiment de traverser l'épreuve, de surmonter l'épreuve pour que vous retiniez la leçon et que vous fassiez mieux la prochaine fois. Alors, pourtant, en lisant les Écritures, on constate que ceux qui ont excellé avec le Seigneur avaient ces qualités. Pourquoi pas nous? Et aussi, ils ont eu à se poser des questions comme nous, peut-être, mais personne ne le sait. Peut-être, bon, eux, peut-être, c'était moins dur que nous, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est technologie et toutes les distractions, je ne sais pas. Mais au moins, les Écritures nous prouvent que, voilà, eux, ils ont eu aussi à vivre des épreuves. Des fois où Dieu faisait des promesses rallonges, où il fallait attendre des années pour que la promesse s'accomplisse. Mais ils n'ont pas lâché quand même. Et au final, ils ont dit, bah, ça valait la peine de tenir. Et voilà, aujourd'hui, je peux témoigner que tu es Dieu et que tu es au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi je reprends Hébreux 12 au premier verset. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés de si grandes nuées de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Sharon l'a très bien expliqué, je le redis encore, vous m'excusez avec Sharon. Parce que on n'est pas à l'abri des épreuves dès lors qu'on s'engage avec Christ. Au contraire, s'engager avec lui, c'est comme si vous signiez votre arrêt de mort, pour ne pas dire votre déclaration de guerre avec l'ennemi, parce que vous serez constamment tenté, et d'une manière ou d'une autre, si vous n'êtes pas enraciné en Christ, la chute, elle n'est pas loin en fait, elle est juste à côté. Alors, la conséquence de l'endurance dans nos épreuves nous mène à la maturité et à la force dans le Seigneur, comme le dit Jacques 1, le verset 4. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez plein de force, comme des hommes auxquels il ne manque rien. Dès lors qu'on traverse une épreuve, on s'est dit, voilà, fini les nuages qui étaient au-dessus, là je peux encore profiter de la vitamine D, je crois, c'est ça, du soleil, et puis continuer avec le Seigneur. En même temps, lorsqu'on continue, c'est pas pour se dire, ouais, Seigneur, t'as bien fait de me sortir de cette épreuve, donc voilà, je m'attends à une nouvelle épreuve. Non, non. Il te sort de l'épreuve pour que tu témoignes sa grandeur, même si ce ne sera pas direct en mode témoignage, genre vous vous tenez devant les gens comme l'a fait Sharon, encore une fois. Mais c'est au travers en fait de nos actes, de nos paroles, de notre manière de faire ou d'agir ou je sais pas, d'une manière ou d'une autre en tout cas, on est censé témoigner de la grandeur de Dieu après avoir traversé une épreuve. Alors, comme je disais, pour ce développement, il y a plusieurs moyens d'identifier le disciple du Christ. Et donc, ma liste n'est pas exhaustive pour décrire tous ces moyens, mais à toute évidence, l'engagement à suivre Christ est un parcours du combattant qui nécessite de multiples efforts pour s'accrocher et aller jusqu'au bout. C'est ce que Paul nous dit en 2 Timothée 4, le verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra le jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Là encore une fois, on retrouve la notion ou l'idée du soutien entre frères et sœurs. Et c'est pas parce qu'on traverse en fait une épreuve ou une difficulté qu'on doit se dire, voilà, je suis l'unique au monde et que je ne peux pas compter sur les autres. Il y a toujours quelqu'un qui peut t'aider d'une manière ou d'une autre à t'en sortir. Il suffit juste que tu saches comment exprimer tes besoins pour que tu trouves la solution. Alors, qu'en est-il des conséquences de ce manque de prise de conscience du fait d'être disciple du Christ? Là aussi, la liste des conséquences, elle est très exhaustive, mais je vais essayer juste de citer quelques-unes. Les conséquences de l'ignorance de notre discipula en Christ. C'est le vagabondage, notamment dans les différentes églises, sans savoir ce que l'on veut ou ce que l'on cherche exactement. Aujourd'hui, on a pas mal de chrétiens qui te disent voilà, je suis chrétien, mais finalement, je ne comprends pas l'enseignement de telle église qui dit ceci, telle autre église qui dit ça, telle autre qui dit ça. C'est dommage qu'on prenne les évangiles dans ces sens, parce que là, ça revient au rôle des prédicateurs de l'évangile qui essaient de donner la philosophie de l'évangile, alors que la finalité des évangiles, c'est nous ramener tous au royaume des dieux. Et donc, peu importe les dénominations que nous allons choisir, gardons à l'esprit que la destination, c'est la recherche de la volonté de Dieu. La deuxième conséquence, c'est le risque d'influence par des enseignements des antéchrists et des hérésies. J'ai bien dit des antéchrists et non antichrist. Antéchrist. Le verset, je ne l'ai pas noté, mais les antéchrists, la Bible nous les décrit comme des personnes qui viennent avec la parole de Dieu, qui vous convainc que voilà, Dieu est là, mais en réalité, ce n'est pas pour Dieu qu'ils prêchent, mais c'est pour leurs intérêts. Raison pour laquelle ils essaient de transformer les évangiles selon leurs interprétations et non selon l'interprétation des évangiles. Donc il faut faire attention à ces genres d'enseignements aussi. La troisième conséquence, qui me paraît assez banale, mais qui est pourtant juste, c'est la confusion totale de la réalité mondaine et la réalité divine. Aujourd'hui, on a pas mal de chrétiens qui essaient d'identifier l'Église au travers de ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est l'erreur à vraiment éviter. Pourquoi? Parce que le monde est fait du divin et non le divin fait du monde. Je me réexplique. Tout ce qui se passe sur terre est connu au ciel. Si tu t'es dit je vais faire sur terre quelque chose qui va influencer le ciel, tu marches sur ta tête, en fait, tu marches pas sur tes deux pieds. Faut que tu revoies les choses. Que ce soit dans les domaines, j'allais dire spirituels, politiques, de la vie, tout ça, tout ce qui se passe sur terre est connu dans les ciels. Donc, ne soyez pas tentés à vouloir comprendre les choses divines par les choses mondaines. Sinon. Et d'ailleurs, je ne sais pas si il y aura un lien. Il y a Jésus lorsqu'il essayait Lorsqu'il est entré dans le temple, voilà, il essayait de remettre de l'ordre en fait, où il y avait le marché, il y avait tout le monde qui faisait tout et n'importe quoi. Et il y a eu la jeune femme veuve qui offrit et puis Jésus qui dit, voilà, elle est la seule qui a donné du fond de son cœur, donc son offrande est plus considérée que celle des autres. Après, plus loin, il dit, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce verset traduit exactement cette confusion, disons, cette confusion totale de la réalité mondaine avec la réalité divine. Ce qui se passe sur terre, c'est sur terre. Ce qui se passe au ciel, c'est au ciel. Mais tout en sachant que tout ce qui se passe sur terre est connu au ciel. La quatrième conséquence que j'ai pu souligner, c'est le jalousement inutile entre les frères et sœurs d'une même communauté. Si aujourd'hui on prend conscience que nous tous on est disciples du Christ, il n'y aura plus de jalousie entre nous dans le sens que il y a un tel qui prie et ses prières sont exaucées, mais pas les miennes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Nous tous on a accès à Christ, nous tous on sait prier, donc on a entre guillemets on a droit aux mêmes réponses par rapport à nos prières. Mais pourquoi la prière des autres est exaucée, pas la mienne? Là, le problème réside à la façon dont nous prions. La Bible est très claire par rapport à cela. La prière, c'est une question de sincérité avec Dieu. Mais si tu oses faire la prière dans le sens que, Seigneur, voilà, je veux ça, mais je voudrais que tu le fasses comme ça, à ma manière, bah ok. Dieu, c'est quelqu'un qui répond selon ce que toi, tu lui as dit. Si tu lui dis, Seigneur, je veux ça, par la foi, tu l'auras. Mais si tu le dis à 10 ans, bah, ok, mais je pense que ce serait comme ci, comme ça, mais voilà, bah, tu auras la réponse qui sera comme ci, comme ça, et tu ne vas pas comprendre. Et c'est là qu'on se décourage. Et l'autre point, disons, du jalousement inutile, c'est le fait de se dire, voilà, il y a certains qui prient 1 heure, qui prient, je sais pas, autant de temps, mais moi, je n'arrive pas à faire. Personne n'interdit personne à prier, mais tout dépend de la manière dont tu pries. Certes, la Bible nous demande d'aller dans un endroit secret pour prier, mais cet endroit peut dépendre d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, la plupart optent pour la chambre pour prier, mais il arrive de moments que ce ne soit pas une méthode qui marche avec tout le monde. Et donc, vous n'êtes pas obligé, entre guillemets, de rester dans cette logique de la chambre. Si je ne suis pas dans la chambre, Dieu ne va pas écouter ma prière. Mais essayez d'être sincère lorsque vous adressez votre prière à Dieu, que ce soit dans la chambre, que ce soit en cours de route, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, peu importe l'endroit, il est là, il vous écoute. La seule condition, c'est d'être sincère avec lui. La dernière conséquence que j'ai pu souligner par rapport à l'ignorance du discipulat, c'est l'empêchement à l'accomplissement des bénédictions divines. Dès lors que vous commencez à vous jalouser entre vous, ça bloque la bénédiction. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Psaume 133. Je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que vous allez le lire. La bénédiction ne peut venir là où il y a la division. Il faut d'abord qu'il y ait l'unité, et qui dit unité, on oublie, entre guillemets, tous nos différends pour poursuivre l'objectif commun. et c'est comme ça que vous serez bénis. Raison pour laquelle il faut qu'on arrête en fait de nous lamenter en tant que chrétiens ou en tant que disciples du Christ en disant bah tiens, pourquoi nous si et d'autres et ça, et pourquoi ceci, pourquoi cela. On a tous le même droit d'accéder au Père, sauf qu'on n'a pas la même manière d'exprimer nos besoins. Essayons de prendre conscience juste de cette sincérité ou de cette manière ou de cette attitude que nous prenons lorsque nous nous adressons à Dieu. Et là, c'est sûr qu'il va répondre. Je vais vous partager un de mes témoignages à propos de la prière et tout. C'est dernièrement lorsque j'essayais de déménager sur Rennes. J'étais convaincu que voilà, j'étais tout en ordre en tout et pour tout. Sauf que dans ma prière, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous priez Dieu sans être sincère dans ce que vous voulez, bah, il faut vous attendre à tout ce qu'il va vous imposer comme solution. Après, ce n'est pas facile à admettre, mais c'est la réalité. Je suis disons, vers la fin des vacances d'été. J'ai mis le bouchon doublé dans mes recherches de logement, je n'ai pas trouvé. Pourtant, j'avais tout. J'avais les garants, j'avais la garantie, rien ne me manquait. J'ai fini le mois le dernier mois des vacances. Je n'ai rien trouvé. J'étais obligé de partir sur Rennes sans savoir où j'allais. En tout cas, sans savoir où j'allais. Heureusement, il y a un ami, un jeune que vous connaissez, JC, qui y habite, qui m'a dit, bah écoute, en attendant que tu trouves où te loger, tu viens chez moi. Je lui ai dit, bah, ok Seigneur, je ne m'y attendais pas. Moi j'allais, je ne savais pas vraiment où est-ce que j'allais. Mais voilà, j'ai trouvé un logement. J'ai trouvé où poser ma tête le soir à rentrer à l'école. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. J'ai eu à visiter pas mal d'appartements. Il y a eu des propriétaires qui me disaient « Ouais, tiens, ta candidature, elle est assez intéressante. Bon, on va te rappeler après. » Mais en réalité, me rappeler, c'était « Monsieur, désolé, l'appartement est pris. » Je me disais bah, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me prendre par là ?» J'ai tout fait. Je ne sais pas en fait ce qui ne va pas. Après, j'en ai partagé avec certains membres de cette communauté. Et Chantal qui me dit, tu sais quoi, arrête de t'inquiéter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ta prière n'était pas bien adressée et Dieu n'a pas encore disponibilisé le proprio qui te correspond. À la lecture du message, je me suis dit, bah, ok, ça me paraît comme un message vraiment pour me remonter le moral, mais moi je galère, il faut que je trouve un appartement. Après 3 ou 4 jours, je vois une annonce sur le bon coin, il y a un proprio qui propose une colocation de son appartement. Je postule, il dit bah, ok, on s'est fixé rendez-vous ce soir. C'est un jeudi. Je passe chez lui, il dit ok, mais tu sais quoi, j'accepte ta demande, donc tu seras mon colocataire. Pas besoin de garanties, pas besoin de garants. J'ai dit bah, non, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je priais, j'avais tout, je priais, je me disais, tu sais très bien que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la disons, pour signer un contrat, mais pourquoi je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a exigé tout ça? Mais non. Je te prends, sans garantie, sans garant. Je dis, ah, c'est formidable. Et aujourd'hui, on partage l'appartement ensemble. En plus du fait qu'il m'a proposé son appartement sans garantie, sans garant, il me prend pour son petit frère. Je me dis, bah, Seigneur, ce fou, en fait, tu me fais confondre dans mes prières, moi qui avais une idée par rapport à ce que je voulais. Tu m'as fait prendre conscience que non, ce n'est pas moi qui détiens en fait ma destinée, il faut que je te fasse confiance. Et pendant que je préparais cet enseignement, vraiment, c'était le moment clé que je voulais partager avec vous, en fait, en disant, prenons toujours conscience de qui nous sommes. Et surtout, reconnaître notre identité en Christ. C'est quelque chose de très important et ça nous permettra de vivre beaucoup de choses avec lui et continuer vraiment à demeurer avec lui. Alors, pour finir l'enseignement, je vous propose une déclaration, en tout cas, pour ceux qui le souhaitent ou pour ceux qui sont convaincus. Convaincus, vraiment, là, c'est... La mise en pratique un peu de ce qu'on a dit, croire et demeurer, pour ne pas dire croire et mettre en pratique c'est qu'on, la chose à laquelle on a cru, c'est de déclarer le psaume 119, le verset 10, 11 et 105. Pour ceux qui sont d'accord, en tout cas, levez-vous et déclarons tous ensemble ces versets. Et ne vous sentez pas obligé de ne pas vous lever ou disons de ne pas être d'accord, c'est votre droit en fait. Vous êtes prêts? Allez, on va lire ensemble. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le verset suivant. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce moment que tu nous as permis de partager ensemble. Merci encore une fois pour cette nouvelle interprétation en fait de ta parole qui, pas seulement, ça m'enseigne moi personnellement, mais je suis convaincu que pour les autres aussi, ils se sont identifiés dans ta parole. Je te prie de pouvoir nous aider à mettre en pratique ce que tu nous as appris aujourd'hui. Ne sont pas seulement des spectateurs de ton royaume, mais sont vraiment artisans pour ta gloire. Béni sois-tu au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.